voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que le thème de l'émission ce soir porte sur les relations entre la police et les populations qui se sont tendues ces dernières années en cause de la brutalité et les violences qu'elle est accusée d'exercer pendant certaines de ses opérations. Nos invités sont en ligne, mais nous allons d'abord partir à Douala pour parler dans notre rubrique décryptage de la lutte contre le handicap. Rappelons que depuis 1992, le 3 décembre est journée internationale des personnes handicapées. Et notre invité est Martin Kamumim au Cameroun. Martin Kamumim, bonsoir.
Bonsoir Liliane et bonsoir à tous vos auditeurs.
Vous êtes directeur général de RSI, Radio Sport Info à Douala et fondateur de Donnons-nous la main, association d'aide aux personnes vivant avec le handicap. Dans un texte, Martin Kamumim, que vous avez signé, vous dénoncez ce que vous appelez l'hypocrisie des uns et des autres et surtout des officiels. Qui dites-vous, à l'occasion de la journée mondiale des personnes handicapées, comme c'est le cas aujourd'hui, vont faire des discours et semblant de plaider pour eux? Et pourtant, vous écrivez aussi qu'au fond, lorsqu'il s'agit de soutenir ou financer des projets pour aider des personnes handicapées sur la durée, alors on ne les retrouve pas, ces autorités, elles se débinent.
Oui, non seulement elles se débinent, mais il y a des actes quand même publics qui laissent songeurs et qui nous poussent à nous interroger. Figurez-vous que la délégation des affaires sociales qui est supposée être le lieu de retrouvailles de toutes les personnes qui vivent avec le handicap à Douala, par exemple, pour le littoral. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte que le bureau de la déléguée est en hauteur, sans ascenseur. Ça veut dire que ceux qui sont en chaise roulante, ceux qui sont en béquille, n'iront pas. Mais ça, c'est caricatural de tout ce qu'ils font et de tout ce qui est fait. C'est-à-dire que les mairies donnent des permis de bâtir, il y a des immeubles de 6 niveaux qui ne sont même pas
adaptés aux personnes âgées.
Oui, absolument, ou des rampes. Il y a pourtant dans ce pays un texte qui oblige à une certaine hauteur de le faire. Et vous trouvez que dans des entreprises, je suis tout le temps submergé par des plaintes des jeunes qui ont été en fait appelés dans des entreprises sur la base de leur CV. Et lorsqu'ils arrivent, on se rend compte qu'ils sont avec des béquilles.
Ils ne peuvent pas y accéder.
Ben absolument. Non seulement ils ne peuvent pas accéder, mais quand ils arrivent à accéder, c'est ceux qui recrutent même qui leur disent ben écoutez, on va vous rappeler, mais on ne rappelle jamais. En fait, il y a une loi également dans ce pays qui exonère des taxes aux entreprises qui recruteraient ou qui favoriseraient le recrutement des personnes vivant avec le handicap. Sauf que personne, ce n'est pas respecté et ça ne pose de problème à personne.
Mais Martin Kamumim, vous êtes aussi chef d'entreprise. Est-ce que, à votre niveau, vous sentez un soutien de la part de l'État, peut-être au niveau fiscal? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour soutenir des entreprises mises en place par les personnes handicapées?
Mais Madame Niatia, il y a des dispositions qui disent que lorsqu'une personne vivant avec le handicap crée une entreprise, il a un certain nombre et un rabattement fiscal qui est prévu. Sauf que moi, j'ai créé une entreprise depuis 7 ans et je peux vous montrer des lettres en entreprise, des sommations pour même des sommations qui n'existent même pas, qui sont juste une fantaisie des fonctionnaires qui veulent racketter deux ou trois choses. Alors, lorsque vous êtes face à cette situation, vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ne s'intéressent plus à cette loi. Mon entreprise est tout le temps sous le coup d'une fiscalité asphyxiante. À la limite, je me demande si je ne dois pas fermer. Il n'y a aucune motivation, il n'y a aucune subvention, il n'y a rien du tout.
Monsieur Mim, vous parlez des problèmes d'accès à l'emploi pour les personnes handicapées, de l'accès aux bâtiments officiels. Les associations spécialisées estiment à près de 10% des 18 millions d'habitants le nombre de personnes vivant avec un handicap au Cameroun. Mais qu'en est-il du regard de la société? Est-ce qu'il y a un changement par rapport à l'époque où vous étiez peut-être au collège et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vous avez senti une évolution du regard de la société vis-à-vis des personnes à mobilité réduite?
Si je parle de mon cas, il sera trompeur parce que moi, je suis devenu une personnalité publique, une star de la télévision et des médias. Et j'ai beaucoup d'amis.
Allô, monsieur Mim? Nous l'avons perdu, semble-t-il. On va peut-être essayer de le retrouver. Martin Kamumim, notre invité. Directeur. Vous m'entendez, Martin?
Oui, je vous en prie.
Allez-y, s'il vous plaît, terminez vos propos.
Oui, j'étais en train de dire que prendre mon cas, c'est un peu truquer le jeu parce que moi, je suis une personnalité de la vie publique, des médias qu'on me respecte. Mais le regard des autres ne change jamais.
C'est tout condescendance, pitié, disiez-vous?
Oui, absolument. Pitié, mais une pitié hypocrite. Parce qu'en réalité, la pitié, c'est pour dire, ouais, mais vraiment, pour faire des grands discours, donner l'impression qu'on s'intéresse à cette cause. Mais à la fin, on ne fait rien. Moi, chaque décembre, j'organise un arbre de Noël pour les enfants vivant avec le handicap. Ça fait 4 éditions que je le fais. Je sollicite des entreprises juste pour leur demander des goodies. Et pour pouvoir donner aux gens à cette occasion, il n'y a pas de budget, il n'y a pas si, je vous parle de goodies, vous parle même pas de budget. Donc en réalité, c'est très hypocrite. À l'occasion de cette journée, tout le monde est associé, la ministre a écrit, les entreprises vont donner l'impression d'avoir cette solidarité sociale qui n'existe que de façon protocolaire.
Mais on va peut-être terminer avec une note positive, Monsieur Mim, parce que je disais, vous êtes directeur général d'une radio, mais vous êtes aussi commentateur de matchs pour CFI. Et Canal Plus, pour ne citer que ces deux médias. Et vous terminez vos propos en disant quand même que l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. C'est quand même une note d'espoir. Ça veut dire que le handicap n'est pas un frein et qu'on peut surmonter son handicap.
Évidemment qu'on peut le surmonter. Et moi, j'ai réussi à le faire. Mais est-ce qu'on va demander à tout le monde d'avoir la force de caractère et la force de travail de Martin Camus? C'est pas évident. La société doit pouvoir aménager ça. Moi, pour que j'arrive là où je suis arrivé, j'ai travaillé dans un immeuble, dans un média qui avait, qui était à six niveaux. Il n'y avait pas d'ascenseur. Je l'ai fait, je ne sentais même pas la douleur parce que je voulais être un journaliste reconnu. Combien peuvent le faire? L'État doit aménager parce qu'il y a des jeunes qui sont formés, qui vivent avec le handicap, qui n'ont pas...
Mais qui ont besoin d'un coup de pouce de l'État.
Oui, qui ne peuvent pas avoir accès à un boulot parce que l'entreprise où ils peuvent travailler, installer au troisième niveau, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de rampe. Vous voyez des supermarchés qui sont construits, il n'y a même pas de rampe, on est obligé de porter des personnes qui sont avec le handicap pour accéder. Je trouve que c'est dommage.
Merci beaucoup Martin Camumim, notre invité, directeur général de RSI et de l'association Donnons-nous la main, association d'aide aux personnes vivant avec le handicap. Et nous entamons alors qu'il est 18h16 notre débat sur les violences policières en France. Nos invités sont en ligne. Bruno Fuchs, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député à Mouvement démocrate du Haut-Rhin. Votre parti est membre de la majorité présidentielle et vous êtes par ailleurs vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Est-ce que M. Tariq Yildiz est en ligne, sociologue? Allô, bonsoir. Monsieur, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue à vous également, professeur Toumba Chango-Loko, politologue et professeur à l'Université Sorbonne Paris 3. Bonsoir. Allô, professeur? Peut-être pas encore. Herman Ebanguet, secrétaire général de SOS Racisme, est-ce que vous me recevez?
Oui, je vous reçois très très bien.
Merci. Bonsoir. Beaucoup. Nous allons commencer par poser le problème et essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené cette tension et cette violence policière observée ces dernières années, qui sont en hausse d'après des ONG. Est-ce que vous avez réussi à cerner très succinctement, Monsieur Bruno Fox, quel est le problème? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Oui, c'est des questions qu'il faudrait poser aux politologues et aux sociologues, mais... C'est une question qui est une question extrêmement large, avec beaucoup de points d'entrée, et qui régulièrement, dans toute société, en France en particulier, revient au devant des médias, parce qu'il y a un événement qui est médiatisé et souvent tout à fait inacceptable. Là, on a une série d'événements en France. On a eu d'abord un article d'une loi sur la police qui a été très discuté et qui, de mon point de vue, n'est plus discutable aujourd'hui, mais qui l'a été dans sa première intention.
Vous parlez de l'article 24.
De l'article 24, qui est un article qui crée un quiproquo chez les journalistes et dans une partie de la population française.
Et même au sein de la majorité.
Oui, mais sur l'article lui-même, aujourd'hui, sa rédaction est assez claire, mais il a créé un quiproquo, et donc moi j'ai toujours été le partisan que sur des principes fort de liberté publique et de sécurité des biens et des personnes, on ne puisse pas transiger. Et à partir du moment où il y a un certain doute d'une partie de la population, il était normal, de mon point de vue, d'essayer de j'ai prôné, moi, l'idée de le retirer, de le réécrire et de, de faire ça de façon beaucoup plus consensuelle. Voilà. Donc ça, c'est un premier point qui était le point de démarrage, en tout cas, de la focalisation sur ce type de sujet. Et puis après, il y a eu plusieurs épisodes malheureux de manifestations qui se sont mal déroulées, et puis surtout de citoyens qui ont été maltraités par des agents de police. Voilà, ça, c'était le point de départ. Alors, les sujets eux-mêmes, ils sont beaucoup plus profonds. Ils sont liés d'abord à la police. Mais il faut savoir sur quel type de sujet vous voulez parler, parce qu'on parle également, on parle de force et de mauvais comportement un certain nombre de policiers, mais on parle aussi de violence dans les manifestations. Donc, on voit là qu'on a tous les sujets sont réunis dans la
ce qu'on appelle la violence policière. Merci, Monsieur Fox. On va écouter le professeur Toumba Shango. Quel est votre diagnostic? Monsieur Fox vient tout à l'heure de parler de quiproquo avec cet article 24. Est-ce que c'est pas la goutte d'eau, c'est pas juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase?
Disons que la question de l'article 24, pour moi, est une question connexe. Subsidiaire au fond qui vient s'incruster dans un problème spécifique qui est celui des violences policières constatées en nombre depuis ces dernières années, mais avec une cristallisation autour des manifestations des gilets jaunes qui...
Et certains analystes parlent aussi de la montée des groupes radicaux.
Mais bien sûr, il y a les gilets jaunes et dans toutes les manifestations de ces dernières années, manifestations qui étaient infiltrées par les Black Blocs, comme on dit, qui sont des extrémistes qui viennent pour casser non seulement de la police, du policier, casser des magasins, casser du mobilier urbain, etc. Et malheureusement, dans ces violences au cours des manifestations, il y a un certain nombre de policiers aussi qui se laissent emporter par débordé même par les événements et qui se comportent comme exactement ces individus qui viennent perturber les manifestations. Et comme on l'a vu lorsque il y a eu malheureusement les violences contre Michel Zecler, et là effectivement on a vu une police qui s'est comportée comme une meute de loups face à une proie qu'il fallait à tout prix
maîtriser. Exactement. Quels qu'en soient les moyens. Merci beaucoup, professeur. On va également écouter, on va faire un tour de table sur le diagnostic. Monsieur Ebonguet, est-ce que c'est également votre avis?
Pardon, j'ai pas compris votre question.
Quel est votre diagnostic? Qu'est-ce qui provoque cette tension aujourd'hui entre les populations et les forces de l'ordre, et notamment la police?
Ben, comme ça a été dit, c'est pas les deux premières interventions. Enfin, je crois que c'est pas l'article 24 qui soulève ça. Ça a été dit. C'est un sujet subsidiaire. C'est un truc annexe, accessoire même à la.
Dont les causes remontent à plus loin. Quelles sont ces causes?
Bien sûr que nous, à SOS, ça fait très très longtemps qu'on sait que ces rapports entre police et population se sont fortement dégradés. Et d'ailleurs, il faudra beaucoup, beaucoup de temps, il faudra une mobilisation de l'ensemble du monde, enfin des parties prenantes pour arriver à trouver des solutions.
On va aborder tout à l'heure très rapidement les solutions, mais monsieur Ebonguet,
les causes, enfin, il y a plusieurs portes. Il y a la question d'une part, de la question de la ghettoisation, de certaines marginalisations des populations, de la précarité des populations. Il y a aussi de l'autre côté.
Est-ce que vous ressentez au niveau de SOS Racisme un sentiment de discrimination, comme vous venez de le dire? Est-ce qu'il y a des violences, catégories de populations qui sont plus victimes de violences que d'autres?
Non, mais forcément, ça ne veut pas justifier ça, mais j'essaie de vous expliquer qu'il y a évidemment, que de certaines frustrations qui ressurgissent, qui rejaillissent sous forme de violence, de nouveaux comportements, qui nécessitent et d'ailleurs aussi des nouvelles formes d'intervention de la police qui soient adaptées. Il y a quelqu'un qui a parlé de la police qui n'arrive plus à intervenir face à des mouvements, que ce soit des... Voilà. parce qu'il y a de nouvelles formes. Cette police a été formée à une forme d'intervention, à une forme de mobilisation. Merci. Et ce racisme, on a organisé, je pense que personne ne peut enlever ça à SOS. Ça fait des années et des années que SOS Racisme a organisé des manifestations. Et évidemment, des manifestations de contestation, hein, comme c'est le cas encore, de revendications, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais ces manifestations ne se terminaient pas de cette manière. Donc,
merci
on est
beaucoup,
face à de nouveaux phénomènes qui nécessite de nouvelles formes d'intervention, évidemment.
Merci beaucoup, Monsieur Bonguet. On va permettre à Monsieur Tariq Yildiz de s'exprimer également, qui est sociologue. Il a sans doute une lecture peut-être différente des causes de ces violences, Monsieur Yildiz.
Juste, je pense en effet qu'il y a une montée des violences, mais qui est très générale au sein de la société, qui concerne pas uniquement la police, qui concerne vraiment toutes les composantes. Et on a évoqué une forme de frustration. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui qualifie bien l'époque, et un peu pour tout le monde, y compris pour les policiers d'ailleurs.
Et qui sont ces personnes frustrées, monsieur Elzis, si pour être plus clair?
Alors, pour être très clair, j'ai fait beaucoup d'études de terrain, notamment en banlieue, et j'interrogeais parfois des policiers de la BAC, notamment, qui concentraient beaucoup de problèmes hein, à une époque, et puis je peux vous dire que c'est encore le cas, sans stigmatiser tout le monde. Mais il y avait des gens qui pouvaient déraper parfois, pour reprendre leur terme, en disant « oui, mais on trouve ça insupportable parce qu'on se fait caillasser, on se fait cracher dessus, on se fait je ne sais quoi ». Et donc, c'est des gens qui, frustrés, parfois allaient de l'autre côté. C'était des sortes de voyous de l'autre côté, parfois. Alors, évidemment, je ne généralise pas.
Hein, qui pensait être stigmatisé par les forces de police?
Alors, en fait, c'était vrai des deux côtés. C'est-à-dire qu'on avait des gens dans les quartiers qui disaient « bien, moi, je suis stigmatisé pour telle et telle raison ». Et puis, on avait des gens au sein de la police qui disaient « mais nous, on nous prend pour des abrutis, on nous crache dessus, on nous frappe tout le temps, toute la journée. Et finalement, quand on attrape un voleur, il est relâché dans l'heure. Et donc, on sert à rien. »
Merci ça, beaucoup. On va marquer une pause. On revient dans un instant.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment en sommes-nous arrivés aux violences policières et quelles solutions possibles? C'est le thème de votre grand rendez-vous de ce soir avec nos invités Tariq Yildiz, sociologue, et Herman Ebonguet, secrétaire général de SOS Racisme, professeur Toumba Chango, loco, politologue, et Bruno Fuchs, membre de la majorité présidentielle, député. Monsieur Fuchs, nous allons vous donner la parole aussi pour analyser cette sortie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a déclaré devant les députés que le fait d'avoir raccourci la formation des policiers a été une erreur fondamentale. On sait aussi que la police a des problèmes d'effectifs, de formation, d'encadrement. Il n'y a pas assez de caméras pour tous les policiers. Le recrutement avec des notes parfois de 6 à 20. Est-ce que finalement l'État n'est pas responsable entièrement de ce qui arrive aujourd'hui?
Pas entièrement, mais l'État a une responsabilité, bien évidemment. Elle est ancienne. Je pense que sans aller très loin dans l'histoire, le point de départ, c'est la suppression de 10 000 postes de policiers sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ça a eu comme conséquence d'affaiblir les effectifs, et quand François Hollande a commencé à réembaucher, et nous après énormément, ça crée des grandes difficultés dans cette intégration.
On a voulu réembaucher et très vite rendre opérationnels des policiers qui n'étaient pas suffisamment formés.
Écoutez, quand vous avez besoin de policiers, vous embauchez 8000 policiers par an, là où on en embauchait 4000 avant. Ce qui veut dire que vous êtes, pour avoir 8000 personnes, vous êtes obligé de baisser un peu le niveau du concours. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, les écoles de formation sont pleines à craquer, donc vous baissez la durée de la formation. Pour le concours externe, c'est passé de 12 mois à 6 mois pour une grande partie des policiers. En interne, de 12 à 10 mois. Donc, je ne vais pas détailler, mais on voit bien donc que ça a créé certainement une difficulté à intégrer des policiers avec une formation plus importante. Donc, ça, c'est un nombre de facteurs. Voilà. Après, il y a d'autres facteurs, bien évidemment. lié peut-être à la formation. C'est plus important. Quand vous allez chez les gendarmes, par exemple, la formation est différente. Vous êtes chez des militaires, vous allez dans d'autres pays, en Angleterre, par exemple, vous avez une culture beaucoup très différente du rôle de la police. Donc ça, c'est un élément...
En Allemagne aussi ?
Absolument. Extrêmement important. En Allemagne aussi, c'est différent, mais en Angleterre, c'est flagrant. On est même dans un rôle d'accompagnement. Et donc, c'est effectivement un rôle assez différent. Donc, je pense qu'il faut, et ça va prendre du temps, il faut avoir une formation différente technique, mais aussi, certainement, d'un point de vue du principe. Il faut revoir les principes.
Mais pourquoi, sachant, pourquoi, ayant tous ces éléments sous la main, vous parlez de temps de Nicolas Sarkozy, après il y a eu François Hollande, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la mesure du problème et essayé de trouver, de les régler progressivement pour qu'on n'en arrive pas à cette sorte de rupture à laquelle on arrive aujourd'hui entre policiers et forces et population?
Ce fossé en France, il a toujours été assez important. Alors, donc deux points. Le premier, c'est que c'est important. Le deuxième, c'est que on a fait beaucoup d'efforts. Par exemple, nous, depuis 2017, on a augmenté le budget de la police et de la gendarmerie de 700 millions d'euros encore cette année. Au total, 1,5 milliard depuis 2017. Vous avez dans ma circonscription, vous avez des forces de police qui roulent avec des voitures qui ont 200 000 kilomètres et qui ont 6, 7 ou 8 ans. Voilà, donc il faut remplacer tout ce matériel. C'est tout un effort très très important sur l'ensemble des moyens à la disposition.
Merci.
Mais on l'a fait. Mais on veut dire, chaque année, des problèmes nouveaux surviennent. C'est ça la question. Il faut qu'on puisse résoudre ces questions-là. Après, il y a des problèmes de fond.
Avec les attentats aussi. Oui, d'accord.
Mais il y a des problèmes de fond. C'est-à-dire la relation police-citoyen, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'expression de ce problème est médiatisé avec des formes différentes. Mais le problème de fond, il existe. Et c'est de ce problème-là dont on peut parler.
Merci.
Si vous le souhaitez. Ça ne peut pas être trop long. Ça ne peut pas développer ces deuxièmes
aspects. Oui, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Je propose qu'on écoute Tariq Yildiz et ensuite Herman Ebonguet. Est-ce qu'il y a un lien, vous qui êtes sociologue et qui avez travaillé sur le sujet, entre ces violences et peut-être la montée en puissance de l'extrême droite et de l'islamophobie?
Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je le dis pas du tout par idéologie, je le dis à la lumière de recherche, mais c'est très difficile à être objectivé. Pour moi, on est sur des problèmes de fond, des problèmes qui existaient avant, sauf que maintenant, avec les caméras, les téléphones, on voit davantage ce genre de choses.
Il y a plus de médiatisation.
Bien sûr, bien sûr. Avant, et c'est bien triste, il y a plein de choses qui seraient passées sous silence. Maintenant, on voit davantage les choses, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Et c'est pour ça que le fait de généraliser, par exemple, les caméras sur les policiers, je trouve que c'est une très bonne chose qui peut apaiser, parce que...
Mais il y a déjà des caméras, mais il y a certains policiers, j'ai suivi le témoignage de certains policiers qui disaient que les caméras non seulement étaient insuffisantes, mais au bout de 20 minutes d'enregistrement, c'était des caméras qui... si vous permettez l'expression, qui buguait.
Oui, mais bon, donc, ça c'est bien gentil, mais si on veut vraiment faire ça, on peut le faire. Je suis désolé, et il y a aussi des gens qui désactivaient leur caméra d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, si
des
un
policiers?
Message fort, bien sûr, ça existe. Si un message fort de la hiérarchie et avec un contrôle du matériel et qu'on généralise ça, il y aura plus de problèmes. Ça existe dans d'autres pays. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'en serait pas capable. Ça, c'est la première chose. Ensuite, juste très rapidement, il faut, à mon avis, aussi rendre plus fluide la justice. Il faut retravailler évidemment la formation. On a parlé des gendarmes tout à l'heure, mais je peux vous dire qu'on a beaucoup moins de cas comme ce qu'on a vécu ces derniers temps chez les gendarmes que chez les policiers. C'est pas pour jeter l'anathème, mais la formation est différente. Quand vous êtes conscient de votre force, vous êtes moins frustré et il y a moins de dérapages. Voilà. Et donc, il faut évidemment mettre les gens les plus expérimentés dans les zones les plus sensibles.
Donc vous dites que les chefs policiers, peut-être pour certains, manquent de confiance quand ils sont déployés sur le terrain du fait qu'ils sont conscients de l'insuffisance de la formation.
Absolument, absolument. C'est un mécanisme très classique. Quand on n'est pas confiant... C'est là où on
fait
dérape,
des erreurs.
Exactement.
Merci beaucoup. On va écouter Monsieur Michel Ebonguet sur la question que je posais tout à l'heure. Monsieur Yildiz a répondu par non. Il n'y a pas de lien entre violence et montée en puissance de l'extrême droite. Je posais la question pourquoi ? Parce que il y a une enquête qui a révélé que de plus en plus de policiers votent pour l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, Monsieur Ebonguet ?
Non, moi non plus, c'est pas ça, il ne faut pas déplacer le problème.
Entre 40% et 55% de policiers voteraient pour l'extrême droite.
Oui, parce que l'extrême droite surfe sur les problèmes de la société, sur les à travers le discours qui est récurrent où évidemment il faut mettre à bas certaines catégories de la population. C'est tellement facile, c'est du populisme à l'état pur. C'est pas ça, il faut pas déplacer le problème. Et je pense qu'on a un débat très sérieux. Et quand on a ce type de débat, je vous en remercie. C'est pas le cas d'évoquer l'extrême droite parce que la situation est tellement difficile et tellement grave que je pense que nous devons continuer, comme nous sommes en train de le faire dans l'ensemble, à discuter.
Mais monsieur Bongel, les faits sont également têtus. Ce sont des enquêtes qui ont été menées et qui
sont... Oui, non, mais j'entends bien. Mais
on est bien obligé d'en parler.
Ah non, mais je dis pas non, mais je vous apporte ma réponse. Mais moi, ce que je vous disais, et certains des intervenants l'ont dit, moi, je pense que j'ai dit un truc au début. Parce qu'on est face à une situation, à une mutation du monde. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des caméras. Maintenant, on arrive à filmer des faits et des gestes. Il y a une mutation du monde et les comportements ont aussi muté. Je pense que dans une certaine forme de logique, on peut comprendre qu'il y a aussi ces mutations de comportement qui appellent, qui nécessitent à de nouvelles formes de formation. Parce que vous parliez de la formation de la police. C'est pas tellement en soi la question de la durée des formations, mais c'est d'abord le contenu qui doit être adapté à la situation actuelle.
Merci.
On a un problème, bien sûr qu'on a un problème d'effectifs. Il faut revoir les techniques, il faut revoir les principes. Il y a la question des préjugés envers une certaine catégorie de population qu'il faut voir. Il y a, je pense que le monsieur qui a parlé avant moi a dit tout à l'heure, il y a les zones les plus difficiles doivent recevoir les gens les plus qualifiés, par exemple. Il y a les techniques d'interpellation qui doivent être revues. Il y a même la question de l'IGPN.
Mais sur cette technique d'intervention, on se rappelle que il y en a une qu'a voulu interdire le précédent ministre de l'Intérieur, il n'y est pas parvenu parce qu'il y a une levée de bouclier au sein des forces de police.
Ce que vous dites est très vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais une analyse macro parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Mais ça cache quoi ? Ça démontre effectivement ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'immobilisme, il y a une forme de repli, d'enfermement des corps de métier qui ne veulent pas bouger alors que le monde est en train de changer.
Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, le gouvernement a plus de marge de manœuvre pour oser des réformes courageuses ?
Ah ben, je veux vous dire une chose. C'est que la situation est irréversible. Elle ne peut pas. Le gouvernement ne peut pas changer. La police elle-même, elle ne peut pas changer. Vous savez, nous, on travaille beaucoup avec des policiers qui ne pouvaient pas parler il y a quelques temps, même au sein de la police. Enfin, je pensais qu'on allait en parler, mais au sein même de la police, il y avait un certain omerta. Mais aujourd'hui, il y a des policiers qui parlent.
Merci
il y en a
beaucoup.
Un qui a fait un témoignage, je ne sais pas si vous l'avez vu et récemment.
Très rapidement.
Après, justement, c'est cet article 24. Qui a dit qu'il va démissionner parce que pour lui, c'est la goutte d'eau. Et parce que, en effet, les langues vont continuer à se délier et que les changements, cette mutation, ce
Merci
mouvement
beaucoup.
Ne peut pas s'arrêter. Et il faudrait bien que la police, le gouvernement, les pouvoirs publics, tous s'adaptent, acceptent de bouger et de changer parce que les choses ne peuvent plus être comme elles étaient avant.
Merci Monsieur Ebongay. Professeur Toumba, on en est aussi presque à oublier que les forces de l'ordre sont également victimes de violences. Le Figaro parlait de 7399 hommes en uniforme blessés dans l'exercice de leurs fonctions en 2019 contre seulement 3842 en 2004. Les rapports sont devenus si conflictuels aujourd'hui qu'on se demande qui va protéger qui finalement. Est-ce que ce sont les populations qui vont peut-être plus tard demander la protection des forces de l'ordre ou ce sera l'inverse ?
Alors, avant de répondre à votre question, Liliane, je voudrais dire que je souscris à l'analyse qui vient d'être faite de la situation actuelle, de cette nécessité de revoir la qualité de la formation, la qualité du recrutement dans la police, plus que la question des effectifs. Finalement que si on veut vraiment régler le problème en général, il suffit simplement, d'appliquer la déontologie, le code de déontologie de la police, tout est là-dedans, quels sont les rapports de la police et la société, de la société vis-à-vis de la police. mais très peu de personnes appliquent ce code de déontologie.
D'accord, professeur. On va revenir un peu plus longuement sur les solutions à la fin de l'émission. Mais sur ces violences aujourd'hui, cette société est violente vis-à-vis des forces de l'ordre.
Bien sûr, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'histoire de la police, toute l'histoire de la police, de sa naissance, qui montre justement ces affrontements, ces violences de part et d'autre, jusqu'au moment où il y a eu la réforme de la police pour permettre justement à ce que la police se comporte dignement vis-à-vis de la population et vice-versa. Je veux dire que, au fond, ce qu'on voit aujourd'hui n'est que l'expression justement d'une société qui devient de plus en plus violente, et cette violence est visible. Mais
les ONG accusent, comme Amnesty International, l'État d'avoir fait la sourde oreille au moment, à chaque fois qu'il y a eu des alertes sur l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre.
Et bien sûr, et c'est là où on en revient justement à l'IGPN, à la police des polices, qui est censée justement connaître de ces cas et les porter devant la justice. C'est pourquoi je voudrais effectivement aussi qu'on distingue les différentes polices. Nous parlons ici de la police qui intervient sur l'espace public, qui est chargée de la sécurité publique. Et c'est cette police-là qui, aujourd'hui, est en cause, notamment un certain nombre de ces éléments-là.
Merci
effectivement,
beaucoup.
Depuis 2005, avec les émeutes qu'il y avait eu en banlieue, on a vu effectivement des ministres qui sont arrivés à la tête du ministère de l'Intérieur qui ont confondu deux choses. Le fait, d'être le patron de la police et qui ont voulu protéger la police au lieu d'amener la police à être véritablement républicaine. Et au fond, pour faire court, je dirais, vous prenez 1961 Papon, vous prenez 1968 avec Grimaud, vous avez les deux attitudes des ministres par vis-à-vis de la police.
Merci
d'un
beaucoup.
Côté, il y a un qui ferme les yeux, qui encourage, et l'autre qui dit la dignité de la police, ce n'est pas justement se comporter comme ceux qui sont à terre.
Et c'est dire que le rôle de l'État est très difficile dans ces conditions, monsieur le député Fuchs, c'est très difficile. Cette loi sur la sécurité globale et l'article 24 a vu le jour dans un contexte où la police était en difficulté. On se rappelle les événements du commissariat de Champigny-sur-Marne, monsieur Fuchs. Allô, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous m'avez entendu?
Oui, j'ai entendu votre question.
J'ai parlé du contexte de la loi sur la sécurité globale et la proposition de l'article 24. En tout cas, on vous donnera la parole quelques minutes pour répondre et on va marquer une courte pause. On vous retrouve dans un instant pour poursuivre notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons encore poursuivre notre débat sur les violences policières en France avec nos invités. Avant la pause, je vous demandais, Monsieur Bruno Fuchs, est-ce qu'on n'a finalement pas l'impression qu'on a oublié même le contexte dans lequel cette loi a été proposée par la majorité, cette loi sur la sécurité globale? Parce que je mentionnais les tensions qu'il y a eu au commissariat de Champigny-sur-Marne. Allô, Monsieur Fuchs?
Oui, je vous entends.
Oui, allez-y, s'il vous plaît, nous reste peu de temps.
Tout à fait. Oui, il y a un paradoxe dans cette loi, parce que cette loi, pour l'intégralité des articles, sauf l'article 24, vise à améliorer l'efficacité, justement, de la police. Et l'article 24, lui, il visait à une autre chose, à renforcer la sécurité des forces de police. Parce que ça a été bien dit, il y a un certain nombre de violences ou d'incivilités beaucoup plus grandes dans ce pays, en nombre et en intensité. Vous avez par exemple, toutes les demi-heures en France, une personne qui refuse d'obtempérer. Donc elle est interpellée, ou en tout cas la police veut faire un contrôle. Une personne toutes les 30 minutes, il y a un refus d'obtempérer. Deux fois par jour, il y a un policier qui est attaqué par un citoyen avec une arme.
Mais pourquoi, donc, avec tout cela, toutes les difficultés que rencontre la police pour, dans ces opérations, le message n'est pas passé? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de pédagogie de la part peut-être du gouvernement pour, avant de proposer cette loi? Et aussi, le problème ne réside-t-il pas en la manière dont cette loi a été votée, c'est-à-dire en procédure accélérée, en vote accéléré?
Oui, il y a pas mal de petits sujets. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les deux grands événements médiatiques de la place de la République et ensuite l'attaque contre Michel Zecler. Cette loi passait plus facilement, mais ces deux événements...
Les immigrés et l'affaire du producteur.
Ce que vous dites, c'est-à-dire que cet article 24 a été mal préparé, il a été mal pensé, il a été mal exprimé. Et à partir du moment où certaines personnes ont pensé, des journalistes notamment, que renforcer la sécurité de la police, c'était le faire au détriment de la liberté d'expression, et bien là, on a un débat public qui a été extrêmement violent. Il aurait pu se dérouler plus calmement s'il y avait eu cette pédagogie. Effectivement, moi, j'avais voté, j'avais déposé un amendement de suppression de l'article 24, non pas parce que l'article me paraissait aller dans le mauvais sens, mais parce qu'il n'était pas dans la bonne loi. Et surtout, la pédagogie, comme vous l'avez dit, n'a pas été faite suffisamment. Ces articles qui doivent être votés s'il y a un large consensus et pas si on a l'impression qu'on passe en force et donc qu'on protège la police d'actions qui ne sont pas acceptables.
Et justement, aujourd'hui, on en arrive très rapidement, mais si on a à peine 6 minutes et chacun va s'exprimer sur les solutions. S'il y avait deux urgences aujourd'hui, deux décisions prioritaires à prendre pour apaiser les tensions et réconcilier population et policiers, ce serait quoi, M. Fuchs?
Alors, très facilement, de la formation et de la présence de policiers dans les quartiers, police de proximité, ce que l'on a commencé à faire avec de très bons résultats à Mulhouse, par exemple.
Peut-être une police plus représentative aussi de la société française, parce que c'est aussi un reproche qui a été fait.
Également. Ouais, elle est assez représentative quand même, hein, elle l'est plus. Et puis deuxième élément, c'est effectivement, de l'autre côté, une acceptabilité plus grande de la police et donc un effort de la part de l'État d'intégration d'un certain nombre de populations qui se sentent stigmatisées ou mises à l'écart, soit pour des raisons sociales, donc de paupérisation, soit pour des questions également liées à l'histoire de France, liées à l'esclavage, à l'accord de l'esclavage, liées à la mémoire. Tout ça, c'est des choses que la France n'a pas complètement réglées. On l'a vu avec l'histoire des statuts et des débonnages des statuts. Il faut aussi faire un effort, quand on est l'État français ou les Français, pour mieux intégrer des populations qui, par définition, se sentent stigmatisées et pas acceptées dans ce pays.
Monsieur Tariq Yildiz, vos solutions aujourd'hui?
Oui, alors moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, en effet, renforcer les effectifs. Pour mettre en place un peu de confiance, moi je veux pas tomber dans le piège de « il faut des gens plus représentatifs ». Vous savez, ça on a vu ce genre de solution pseudo-miracle, mais moi ça j'y crois pas du tout. La couleur de peau, l'origine, etc., ça ne fait ni un bon flic ni un mauvais flic, ça fait rien du tout. L'important c'est le comportement des gens. Et donc il faut changer ce comportement, pour ça il faut vraiment une vraie tolérance zéro au moindre débordement. Pour moi, on est obligé de réformer l'IGPN.
Est-ce que ne se pose pas aussi la question de la documentation des violences à l'égard des civils? Parce que autant on a pu tout à l'heure savoir le nombre de cas de policiers victimes des violences, mais on n'arrivait pas à avoir des statistiques sur les cas des populations victimes des violences policières.
Mais bien sûr, moi, c'est pour ça que je veux une sorte de refonte de l'IGPN, ou en tout cas d'avoir un organe indépendant. Indépendant non seulement
pour... C'est ce que souhaitent les ONG aussi?
Voilà, non seulement pour recenser, mais aussi pour investiguer. En parallèle de ça, attention, moi je veux une vraie autorité. La police, elle est là pour faire respecter l'ordre. Il n'y a pas de problème avec ça. Je veux dire, il n'y a personne qui veut remettre ça en cause à part des mouvements extrémistes.
Merci.
C'est pas la question. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Ebongé, vous terminez?
C'est pas, il y a tellement de choses à faire. Je pense qu'à mon avis, les solutions, il y en a de trois types. Il y a des solutions d'ordre structurel, il y a des solutions d'ordre technique, des solutions d'ordre politique, et même des solutions d'ordre mémoriel, puisque quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Mais je veux pas trop m'attarder sur ça, parce que je suis assez d'accord sur le fait que la question de la représentativité dans la police n'est pas du tout. C'est pas ça le fond du problème. Je pense que là encore, si on va sur ces sujets qui sont plutôt d'ordre exotérique, etc., on touchera pas le problème. le problème dans son fond. D'autant plus qu'on a une population, on a une police aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas, c'est pas en termes de nombre précis, mais exactement à l'image de la société, mais il y a beaucoup de représentations de la société. Très rapidement.
Merci beaucoup. Moi, Monsieur Bonguet, je suis navré, on va donner le 40 secondes qui reste au professeur Toumba. En 30 secondes, professeur, vos conclusions ?
Non, mais... appliquer simplement le code de déontologie, article 429.9, 434.10, 434.11, qui fixe le comportement du policier ou du gendarme. Dans ce même code, il y a la responsabilité de l'État et justement qui l'article 434.11 qui parle de l'impartialité de la police, donc la question de la représentativité est pour moi une fausse question.
Merci.
Retirer l'article 24 qui veut interdire la lutte.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. À bientôt et restez sur Africa Radio.